Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos habituelles lectures en liberté et je vous propose ce soir, en ce début de semaine, de démarrer la lecture d'un roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. C'est un roman qui a reçu le prix Goncourt en 1989. Un grand pas vers le bon Dieu. Jusqu'à pas trop longtemps passé, Edius Raquin avait cru que la vie était un mouchoir marqué avec trois nœuds d'éternité. 1 et 2 pour la naissance et le mariage. Le troisième pour la mort, se souvenir. En bon cadjien de la paroisse évangéline, il faisait confiance au bon Dieu, chérissait sa terre juste avant sa famille, persuadé que c'était mieux vivre qu'exister, mieux pour un époux et sa femme de se fier l'un à l'autre que de se faire la guerre ou d'avoir doutance du monde qui vous entoure. Raquin avait choisi de rouler son temps au fond des bois, des marigots et des vasières. Il n'appréciait pas trop l'autorité. Il s'accordait bien avec la nature, pratiquait ses petites affaires, tranquille. Aimait autant être seul que plusieurs. Recherchait la compagnie de son chien Hip et ne se connaissait pas d'ennemis. Plutôt que l'anglais, héritage de la guerre confédérée, Edius parlait toujours la vieille langue des Normands, matinée, il est vrai, de petits ajouts rednecks, mais gardait jalousement les traditions de son père, Télesphore Raquin, enterré dans sa tombe au bout du jardin. Pour se souvenir du vieux, il fréquentait la messe, connaissait pas les différences de peau, partant du principe qui cite « Dans le sud-ouest de la Louisiane, les gens pouvaient être riches ou pauvres, catholiques ou baptistes, blancs ou marrons ». Il se mangerait quand même pas le coton sur les épaules. C'est comme si là, qui était bien savant dans les livres ou pas capable de signer son nom, il avait le droit de respirer tout pareil. Que le chêne protège le cadien ou le créole, le couleur ou le nindien, mon vieux, que l'écrevisse soit dans leur filet et le gombo dans leur marmite. Le beau soleil, la grande pluie, le retour des saisons, donnaient assez la mesure et la continuation du bon vivre. Aujourd'hui et demain, la valse battrait encore à trois temps. Un pour la lutte, l'autre pour l'amusement, et le troisième pour la chasse. Fils de piégeur, Raquin sortait d'une famille où on avait souvent marié première et seconde cousine. Dans les temps reculés, c'était pas bien la mode de s'époyer trop loin pour lier amitié d'amour, et la jeunesse faisait jamais à rien pour mécontenter ses parents qui choisissaient pour elle. En s'amarrant à la cadette d'un issu de germain de son oncle, Edius n'était, lui non plus, guère sorti du poulailler. Pourtant, il était tombé en amour vrai, séduit par la beauté comme si elle était accourue de loin. Basel était si frayante qu'à peine passé le soir où ils avaient fait frinde, il lui avait fabriqué une pichonne. C'était des jours mystérieux. On aurait pu croire qu'avec toutes les précautions de protéger leur fille, les parents auraient jamais pu les avoir enceintes. Eh bien, il les avait. Comme partout, quand on s'aime. Et Duce s'était marié avec plaisir. 18 ans déjà avec Basel, 18 ans qu'ensemble ils reviraient la terre, peinaient sur la récolte et qu'entre eux l'ardeur d'aimer s'effaçait pas. Ils avaient inventé une bonne camaraderie. Parfois, après l'usure du travail dans les champs, l'esprit des dieux Raquin jonglait dans le vague à propos d'une maison blanche avec une galerie à piliers qu'il finirait bien par construire avant que sa petite fille Azeline soit en âge et condition d'épouser un vaillant laboureur de ce canton de Bayou-Népiqué. Quelqu'un comme Euclide Ardouin, qui serait un gars de sa qualité de monde. Ou peut-être même comme Voici Smith, qui, contrairement à ce que pouvait laisser prévoir son nom, ne parlait pas un mot d'américain. Avec des garçons tels qu'eux, on resterait pur cadjin dans la clique de la famille. Et tant pis pour l'argent. Pas question de faire une bonne vie grâce à la charité d'un coup rouge sorti de Boston ou de Rochester. N'importe si l'élu serait pas un fringant jeune mystère, affistolé en gants beurre frais, roulant boguet et équipage à 2 chevaux de tir. Dans les mèches et étangs de la Louisiane, les résidents étaient contents de faire alliance entre eux. Et de toute façon, pensait Edius, mieux vaut aider votre voisin avec le ventre d'une pure jeune fille qu'attrapera forcément les manières de son homme plutôt que d'aller la mariocher à un gros richard de la ville. Construire une vraie maison en bousillage, avec un toit en tuiles de bois, était un rêve éveillé qui prenait souvent Edius Raquin sous le chapeau. Souvent, toutefois, il en discutait avec Basel, sa femme devant le bon Dieu. Basel l'écoutait les yeux grands ouverts, mais sa blouse et sa jupe n'étaient pas assez neuves pour qu'elle entre dans ses comptes à dormir sur un pied. « Mon mari, elle disait, je t'ai jamais refusé de parler avec toi et notre amitié est si forte que j'aimerais mourir dans tes bras. Mais tu me tracasses à vouloir toujours aller du côté de ce que tu pourras pas obtenir. » « Mais je te comprends pas, Basel. Quand je t'ai demandé à ton père, j'ai fini par t'avoir. Le moyen de faire autrement, course ailleurs, tu m'avais fait pas qu'avant carême. Mais enfin, ils n'ont pas dit non. Parce que je t'ai aidé, gros nigaud. Les filles s'y connaissent à bluffer leurs parents. Je leur ai dit que t'avais de quoi. »
Oh, j'avais les 30 arpents laissés par mon oncle Sostène.
Tu les avais, all right, mais c'était pas les meilleurs clos de la paroisse, reprochait volontiers Basel en montrant ses mains rugueuses. Au moins 3 ans, il a fallu adoucir les herbes farouches avant de penser au maïs.
Dans ces moments-là, Edius la dévisageait avec des yeux qui découvrent.
Quoi, mon cher bébé?
Il s'étonnait en cajolant sa bassette contre lui.
Après toutes ces nuitées de bonne adonnance, je t'aurais rendu malheureuse.
J'ai pas dit ça, Edius Raquin. J'ai dit que tu regardais toujours du côté de l'impossible.
Bah, je te ferais une belle habitation, s'entêtait-il. Avec une galerie à colonnes grecques sur le devant, une salle avec un lustre en cristal et des commodes dans la maison.
Ah ouais, pourvu que ce soit pas comme le caraco en pou de soie, 20 ans déjà que je l'attends.
Fi Dieu, mais c'est donc de la dispute. Dimanche, je t'offrirai une jolie petite camisole frayante et je t'emmènerai giguer le two-step au bal de la poussière.
Raquin s'échauffait, donnait un bec à sa compagne. Un autre, en pleine bouche, fouillait la langue. Elle avait beau essayer de se dégager, elle était prise. Il la tenait, embrassée contre lui, lutinait ses poitrines.
« Arrête, vieux bougu, c'est plus de ton âge, tu vas faire un imbécile. »
avec des rougeurs de chaleur sur le cou, elle le repoussait à grand force, s'en allait courrotant vers la cuisine, attrapait son baquet, ramassait son frottoir, prête au grand lavage de la semaine. Il la poursuivait avec ses mains travailleuses, la figure empourprée comme une crête de guine. D'un coup de tape, elle esquivait l'assaut sous ses côtes. « Ôte tes pattes de le dessous, malvenant !» Il la serrait dans un coin, encore roulait des becs, murmurait dans son oreille « Laisse le bon temps rouler, Basel, viens prendre ton petit quart d'heure, je sens que vers toi je me repenche. » « Bestiau, la cabriole est plus de ton âge, tu vas casser ta pompe à sang. Mentris, mon cœur !» Glorieux, il lui donnait à tâter sa racine. Autour de Basel de ricaner, pas comme d'habitude. « Vous êtes lourd comme un gros manche de pioche, messieurs, qu'elle roucoulait. Un bois si farouche que j'ai peur, si vous venez en moi, vous allez me graffiturer. » Signe qu'elle était consentante. Basel dégrafait son linge. Pas besoin de litage, il se laissait tomber là où il se trouvait, le désir était la loi, ça goûtait bon comme le passé. « Tu te souviens, Catin ?» demandait Edius. « T'as eu une belle nuit de noces, Basel, et une fois le château pris, a-t-on pas profité doucement de nos deux corps ?»« Saleté d'homme, elle disait sous son poids, au lieu de s'en jaser, fais-le, voyage avec beaucoup de vitesse !» Elle prenait le restant de cheveux de son marié, comme une crinière de mulet, lui redressait la nuque pour le cabrer sur elle, et les yeux bien écarquillés dans les siens, le regardait s'élancer. « Pique-moi !» elle exigeait, « que ça s'arrête pas !» Une boule de lumière grosse comme une pelote de velours. Encore étourdie, elle regagnait sa chambre par le derrière de la ferme, en essayant de ne pas rencontrer sa fille. À cette heure où battait le soleil, Azeline devait se trouver devant sa glace. Lui repartait se battre avec sa terre. Elle l'entendait passer dans la cour, une fois ses mules attelées. Puis Basel se glissait le long des murs, s'immobilisait de temps à autre pour interroger les bruits en provenance de la maison. Elle conservait en elle, elle cultivait avec délice la sensation troublante d'avoir commis un inavouable péché, d'avoir transgressé l'ordre qui s'impose au devoir des habitudes conjugales. Pourquoi préférait-elle secrètement que son mari la prenne sans ménagement en des lieux inavouables plutôt qu'à heure dite sur leur lit toujours le même qui était désigné pour enfanter et pour mourir? Une fois, l'année précédente, elle avait osé se poser la question différemment.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work was done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63,
kids are gone and so is Louise. Mon daddy o did it go near la ville de Toronto. Now my tears they roll down onto les joues, and I remember the days and the promises that we made. Oh, oh Louise, my jolie Louise, my jolie Louise. Oh, 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 oh.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu. Elle revenait du bayou où elle avait lavé son linge. Un pédeleur nommé Oakley Dodds l'avait abordé du haut de sa hacke au croisement des deux chemins. Le colporteur lui avait proposé des sucreries, des doudoucières sorties de sa giberne. Avant qu'elle eût pu faire autrement, il avait sauté du cabriolet et posé son bec de fouine sur ses lèvres. L'homme sentait le bois puyant et son haleine renvoyait une âcre odeur de moonshine. Il était pris de boisson et le temps qu'elle se débarrasse de son fardeau qui lui encombrait les bras, il l'avait poussée contre un arbre. En courant, elle était rentrée chez elle. Elle n'avait pas cherché à revoir l'homme ni pipé mot à Aedius de cette drôle d'inconstance. Dans le confus de la lutte, elle avait arraché le bergot que le marchand portait en bandoulière pour sonner la trompe et alerter les chalands en arrivant chez eux. Elle s'était retrouvée avec l'instrument de cuivre entre les mains, des talons comme si le diable était auprès d'elle. Et plus tard, incroyable, elle n'avait jamais jeté le petit clairon. Au contraire, elle l'avait caché dans la bordure d'un champ, où elle allait de temps à autre là, après s'être assurée qu'elle était bien seulette, elle bergonnait pour retrouver son plaisir enfoui, jouait de la trompe comme un bateau perdu. En général, après les assauts de son mari, Basel filait dans sa chambre. À l'abri, dans la fraîcheur complice des murs blancs, elle baignait son visage. Elle tirait son chignon vers l'arrière, remettait de l'aplomb dans sa coiffure, puis, en soupirant, elle se dirigeait jusqu'à un coin de la pièce juste derrière le lit et dégageait un trou pratiqué entre deux soliveaux. Dans sa main, elle tenait 300 piastres. Un autre secret. Une autre liberté qu'elle s'était sauvée sur le ménage, sol après sol. Privation après privation, hiver après chaleur. Une clé pour s'ouvrir le monde, si un jour elle sentait en elle, plus fort que la fidélité, l'envie de s'archer tout quelque chose du tumulte qu'elle connaissait pas. La ville, là-bas, il devait s'en passer. Doucement, les yeux de Basel se perdaient dans le vague. Même pour les honnêtes femmes, il arrive parfois que la vie ne soit plus qu'un long trottoir bordé de boutiques, de vitrines emplies de châles, de jupons, de robes gansées, de dentelles et de chapeaux à capeline. Ainsi était le rêve des longs après-midi. Et le bon temps roulait. Quelquefois, à l'heure où les wawarons font leur sérail de bullfrogs au fond des marais, Raquin se grattait le crâne. Même, il se disait, nom d'un sac. Si je prends la pioche demain et que je creuse un trou, j'aurai fait le début d'un commencement d'habitation. J'aurai pas l'air d'un loafer, d'un porien, d'une limite qui respire au milieu des bois, pas plus ambitieux qu'un faiseur de panier. C'était le genre de résolution qui lui durait bien 2 heures entières. Jamais plus. Après, le cœur lui manquait. C'était le gendre, le bachelier qu'il fallait trouver d'abord, les bras, la racine. Il s'en voulait que ce soit pas fait. Azeline était pas laide. Jolie frimousse blanche, sous son garde-soleil, travaillait dur, pareil qu'un homme. Seulement, voilà, la caillette levait jamais les yeux sur les prétendus. Pourtant, les coqs venaient.
s'essayaient à faire leur ronde, paradaient. Euclide Ardouin, sa belle cravate à pois. Même Voici Smith, le bégayeur. Et avant eux, Nathan Godley, qui pesait bien 100 acres, le fils Fomba et Jean Bonfort. Tous étaient venus. Mangeaient gombo, beuvaient la grègue dit café fort, goûtaient les haricots rouges, un courbillon, une fricassée ou une bisque. Louaient la maillère fine de cuisiner qu'elle avait, la doucette, mais toujours repartaient bredouille. Oh, sacré ! Bien sûr, on respectait les us, on prenait des précautions. Le père, la mère s'assisaient dans leur berceuse, la fille à un bout du sofa, le beau à l'autre extrémité. Une fois par semaine, pas de plus, on buvait, on charrait de la récolte, du temps, des vilainies que l'ouragan avait laissées sur le soja. Et puis, à force de plus rien avoir à cancaner sur les voisins, le bardi barda s'arrêtait de lui-même. C'était le moment de silence et de l'embarras sur les visages. Chacun faisait. À la fin, le garçon remuait sur ses fesses, annonçait ses au revoir à la famille. Il se fait tard. C'est soleil couché. Je veux gone, disait l'amoureux. Et il repartait sur son cheval. Les femmes étaient quittes pour la vaisselle. Edius bâillait longtemps. Ce serait pas demain l'habitation blanche. De contrariété, il redoublait sur le whisky. Cherchait à se faire nuisance pour se punir d'une fille pareille. Ou alors, au lieu de s'en prendre à lui-même, de se mettre en rosette, de se fabriquer des habitudes de margoteau, de bambocheur qu'il n'était pas, le vieux bougu sacrait après Azeline, décrochait sa ceinture et lui promettait une rinçure, une rousselée, une torgnole si elle prenait pas plus d'empressement à donner de l'espoir à quelqu'un. « Qu'au faire, tu me casses le cœur comme ça, fille du diable ?» commençait invariablement Raquin. « Puis je te ramène de coquin, plus tu regardes ailleurs. »« Il me plaise pas, dad. Je peux pas m'inventer d'être en amour avec une bûche. »« Comment tu peux dire ? Euclide Ardouin est un fier gars et en plus un fameux planteur. »« Mais c'est un rouleur, un coursailleur de filles. Suffit de le voir. » Il s'amarre après le premier jupon qui vole. Bon, mais tu peux pas en dire autant de Voici Smith. En v'là un qui est bon, comme du café doux. Et c'est pas un couillon. C'est vrai, all right. Mais il ferait bien d'aller consulter un leveur de luettes. Trouves-tu pas qu'il bégaye affreux? C'est juste qu'il trouve pas la longueur de ses mots. Mais il est fou smart, plus intelligent qu'il paraît, et sans te couler du beurre dans le dos, il te trouve bien mignonne dans tes souliers rouges. Ah, on voit bien que c'est pas tôt qu'il l'épouse. Raisonne pas aujourd'hui et demain, fais comme je te dis, fille de peu. Merci pour le plaisir, papa. Le temps que Voici mettrait à me demander de baisser ma petite chemise à coton fine, ça serait déjà l'heure d'aller fider les poules. Azeline était piquante. Elle avait la langue bien pendue. Le genre de belle brune élevée sur du vin aigu. Malgré son désir soupirant pour l'amour et l'amusement, chaque fois que son dad cherchait à la ranger dans le mariage, elle pouffait derrière l'éventail de sa menotte. Finissait par s'éclater d'un rire de roche qui tintait dans le cristal. Edius était frappé de colère bleue. Pouvait pas s'empêcher de vouloir carder la peau de sa fille. Il faisait le tour de la table prestement, rangeait sa babiche de cuir tressée pour pas risquer d'abîmer la beauté si transparente de sa seule lignée et levait le battoir sur la gosseline. Raide sur ses pattes,
Il faisait circuler dans l'air une vire tape d'aller et retour. L'effronté, caché derrière le tuyau du stove, esquivait la poque de son père, s'en chauffait au fond de la salle, se moquait de plus belle avec ses dents d'une brillante clarté. Demain, c'est pas encore les épousailles, elle s'ostinait. Fille de son père, jusque dans l'éclat des yeux, même si tu m'esquintes sur le carreau. Achalé par la chamaille, Edius se resservait un filet de bouse. Basel, en entendant le flacon couler dans le verre de son homme, levait le nez de son ouvrage. Elle se détournait vers sa fille. Écoute ton poupa et ta famille maudite. Voici à sauver beaucoup d'argent pour sa noce. Aseline s'approchait d'elle, posait son dos du ventre contre les hanches de sa maman, jouait avec une mèche sortie du chignon, mouillait ses doigts pour en faire une frisure dans son cou. « Cieux, laisse donc, coquine, maugréait Basel, t'as pas assez l'âge de faire musette. » Mais la petite lâchait pas sa gentillesse, parlait doucement. « Tu te mets de la vie de pop pour pas avoir la grêle sur ton ménage, mais je sais qu'au fond de toi-même, t'es de mon bord, momie. La seule chose qui manque à la femme, c'est de vivre leur vie comme elle veut. » Elle dévisageait sa mère, bien droite, caressait le dedans de sa main usée par la peine et murmurait encore « C'est ça, je crois. » Après un gros silence, Basel la renvoyait avec son coude, remuait ses aiguilles, passait ses mailles. La jeune fille regardait rêveusement le drôle de soir bleu par la porte ouverte. Elle disait à mi-voix « Pour nous, ici, on vit tout bien. » Mais on connaît toujours travailler. Qu'au faire, on pourrait pas choisir son homme ? Prends voici, grondait Basel, il n'est pas plus pire qu'un autre. Est-ce que tu te vois, momie, avec un tac-tac pareil devant ton oreiller ? La mère allait un gros soupir. Qu'au faire, pas ? Pour nous, on apprend que la malchance est aussi une partie de notre vie que la bonne chance. Elle refaisait aller son crochet sur la laine. Après trois mailles, elle ajoutait « C'est comme ça, on faisait l'amour autrefois. » Du coup, on se taisait pour de bon. Et comme toujours dans ces occasions ennuyantes, Edius, les poings noués ainsi que des logs, attendait sonner l'heure 11 heures à l'horloge et s'allait jeter au lit, laissant le terrain aux femmes. Et le bon temps roulait. Jusqu'à cet été torride où les ombres étaient à bout de force. Edius avait travaillé tard dans les champs. Avec les grandes chaleurs, il était ressorti éreinté, tellement tanné derrière son attelage qu'il pouvait plus stand à force de rabourrer la terre. Il avait un bras qui lui faisait mal d'une piqûre de bétail, une peine infectée, venimeuse, qui rempirait depuis le bout de la semaine. Peut-être bien même une morsure de serpent mocassin, datant de la fois où, à force de malaisance et transpiration, il avait sauté à pleine course dans le lac pour se rafraîchir. Warjoujoum, il s'était baigné avec tout son linge. Raquin décolérait plus. Il était chaud sans arrêt, le temps d'orage rendait milier les insectes, par nuées les maringouins tâtonnaient autour des yeux des mulets, dansaient des rondes infernales, si bien qu'à la fin du compte, même les gens devenaient inquiets, nasillaient des querelles, sans rime ni raison, agacés de touffeurs et de mauditerie. Voilà, nous avons terminé pour ce soir le début de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.